la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
Voici les éditions Relief qui publient de très jolis petits livres. Nous allons entendre « Le héron blanc » de Sarah Horn Jewett. Traduction et préface de Cécile Roudeau. Le livre comporte des très belles illustrations d'Arthur Junier. Il coûte 17,90€ aux éditions Relief. Le texte original a été publié aux États-Unis à la fin du 19e siècle par Sarah Horn Jewett. Le héron blanc. Dans les bois, l'ombre gagnait déjà, bien que l'éclat du coucher du soleil s'attardât encore parmi les arbres. C'était un soir de juin juste avant 8h. Sur la route, une petite fille et sa vache. C'était une créature indolente, pataude et obstinée, mais une compagne bien aimée malgré tout. Elle laissait derrière elle ce qui restait de lumière pour pénétrer au plus profond des bois, mais elle connaissait le sentier et l'eût suivi les yeux fermés. Rares étaient les soirs où la vieille vache attendait à la barrière de la pâture. Elle n'aimait rien tant, au contraire, que de se cacher parmi les buissons d'Erelle. Et même si elle portait une lourde sonnaille, elle avait compris qu'à rester parfaitement immobile, elle serait sauve. Sylvia devait donc partir à sa recherche et appeler « Vache ! Vache, où es-tu ?» sans que jamais le moindre meu ne lui répondît, et jusqu'à ce que sa patience d'enfant fût épuisée. Si l'animal n'avait pas donné du bon lait, et en abondance, ses propriétaires lui auraient sans doute passé moins de caprices. Mais Sylvia avait tout le temps du monde, et ne savait trop quoi en faire. Parfois, quand il faisait beau, c'était même une consolation de voir dans les facéties de l'animal une tentative habile de jouer à cache-cache. Et l'enfant, n'ayant pas de camarades de jeu, s'adonnait au divertissement avec une bonne dose d'entrain. Ce soir-là, la chasse avait tellement duré que la vache, de guerre lasse, avait donné contre son habitude un indice de sa cachette et Sylvia s'était contentée de rire quand elle l'avait découverte, au bord du marécage, et l'avait gentiment aiguillonnée avec une brindille de bouleau pour la mettre sur le chemin du retour. La vieille vache n'avait même pas envie de s'aventurer plus loin. Pour une fois, elle tourna même du bon côté au sortir du pâturage et se mit en route à bonne allure. Il était temps de la traire, et elle ne s'arrêta que rarement pour brouter. Sylvia se demandait ce qu'allait dire sa grand-mère. Elles étaient tellement en retard. Cela faisait longtemps qu'elle avait quitté la maison, à 5h30, mais chacun savait qu'on ne pouvait aller vite en besogne s'agissant de dames meues. Combien de fois, les soirs d'été, Mrs. Tillet était partie elle-même en quête de ce tourment cornu. Elle aurait eu beau jeu maintenant de blâmer quiconque s'attardait ainsi. Elle attendait donc et se contentait de bénir le ciel de lui avoir donné en Sylvia une aide si précieuse. Sans doute, l'honnête femme soupçonnait la fillette de musarder parfois pour son propre compte. Avait-on jamais vu enfant plus prompte à filer à travers champ? Tout le monde s'accordait à dire que ce changement était sans doute la meilleure des choses dans la vie de cette petite qui, pendant 8 ans, avait grandi tant bien que mal dans une ville manufacturière pleine de monde. Quant à Sylvia, c'était comme si elle n'avait même jamais vécu avant de venir vivre à la ferme. Elle repensait souvent, non sans un brin de compassion, à ce malheureux géranium qui appartenait à l'un de leurs voisins et qui, lui, était resté en ville. « Elle a peur des gens », s'était marmonnée à elle-même la vieille Mrs. Tillet, riant sous cape après que, ayant décidé de rentrer à la ferme, elle avait, à l'étonnement général, fait porter son choix sur la petite Sylvia parmi toute la nichée de sa fille. « Elle a peur des gens », à ce qu'on dit, eh bien, c'est pas les gens qui vont lui faire souci chez nous. Quand elle s'était retrouvée sur le seuil de la vieille maison solitaire et que le chat, avant même qu'elles eussent pu tourner la clé dans la serrure, s'était frotté contre elle en ronronnant, il avait été délaissé, le pauvre, mais il était gros de jeunes moineaux. Sylvia avait murmuré que c'était un bien bel endroit pour vivre et que jamais elle ne voudrait rentrer chez elle. Les deux compagnes suivaient le chemin ombreux, la vache à pas lents, l'enfant à pas pressés. La vache s'arrêta longuement pour boire au ruisseau, comme si le pâturage n'était pas déjà en partie un marais. Sylvia attendit sans broncher et en profita pour rafraîchir ses pieds nus à fleur d'eau, tandis que les grosses phalènes du crépuscule s'achoppaient à elle sans bruit. La vache s'éloignait, Sylvia la suivit, les pieds dans l'eau, et écouta le chant des grives, le cœur battant de plaisir. Quelque chose palpitait là-haut dans les branchages. Ils étaient pleins d'oiseaux et d'animaux qui, les uns, semblaient éveillés et tout à leur affaire, tandis que les autres se souhaitaient bonne nuit dans leur babille ensommeillée. Le sommeil gagnait Sylvia, elle aussi, alors qu'elle continuait son chemin. Mais la maison n'était plus bien loin et l'air était doux et délicieux. Il ne lui arrivait pas souvent d'être dans les bois à cette heure tardive et elle avait l'impression de faire partie des ombres grises des feuilles bruissantes. Cela ne faisait-il qu'un an qu'elle était arrivée à la ferme? Les choses allaient-elles toujours de même dans la ville bruyante que lorsqu'elle y était? À la pensée du grand gaillard rougeau qui la pourchassait et lui faisait peur, elle accéléra le pas pour échapper à l'ombre des arbres. Mais voilà que soudain, la petite fille des bois est saisie d'horreur. Elle a entendu un sifflement distinct, non loin de là. Non pas celui d'un oiseau, qui aurait eu quelque chose d'amical, mais celui d'un homme, un garçon sans doute, déterminé, et un rien agressif. Sylvia abandonna la vache au triste sort qui l'attendait peut-être, et s'engouffra, sans bruit, dans les buissons. Mais il était trop tard. L'ennemi l'avait découverte. « Petite, dis-moi, la route est-elle encore loin ?» Le ton était enjoué et persuasif. Tremblante, Sylvia répondit dans un souffle. « À un bon bout de chemin. » Elle n'osait pas regarder en face le jeune homme élancé qui portait un fusil à l'épaule, mais elle sortit de son buisson et se remit à suivre la vache tandis que lui marchait à ses côtés. « Je chassais des oiseaux, » fit l'étranger d'un ton affable, « et j'ai perdu mon chemin. J'ai grandement besoin qu'on m'aide. N'aie pas peur, » ajouta-t-il, non sans galanterie. « Dis-moi quel est ton nom. Et si tu crois que je peux passer la nuit dans ta maison et repartir chasser à la pointe du jour ?» Sylvia n'était guère plus rassurée. Sa grand-mère n'allait-elle pas lui faire porter le blâme? Mais qui aurait pu prévoir pareil accident? Comment était-ce possible que ce soit sa faute? Elle avait la tête penchée, comme une fleur dont la tige eût été cassée. Mais elle parvint à répondre à grand-peine « Sylvie » quand son compagnon lui demanda à nouveau quel était son nom. Mrs. Tilla se tenait sur le seuil de la porte d'entrée quand le trio fit son apparition. La vache poussa un meuh retentissant en guise d'explication. « C'est ça, vieux souci, t'as plutôt intérêt à trouver une bonne raison. Où diantre s'était-elle fourrée cette fois, la petiote ?» Mais Sylvia était frappée de mutisme. Elle savait, comme par instinct, que sa grand-mère n'avait pas compris la gravité de la situation. Elle prenait sans doute l'inconnu pour un des garçons de ferme du pays. Le jeune homme planta son fusil près de la porte et laissa tomber à côté une gibecière bien rebondie. Puis, après avoir souhaité le bonsoir à Mrs. Tillet, le voyageur raconta à nouveau son histoire et lui demanda si elle pouvait le loger pour la nuit. « Mettez-moi où il vous plaira, je dois repartir avant l'aube, mais là j'avoue que j'ai très faim. Je ne dirai pas non à un peu de lait, pour sûr. »« Mais où ai-je la tête ?» répondit l'hôtesse, dont l'hospitalité, longtemps restée en sommeil, trouvait là de quoi se raviver. « Vous seriez mieux servi si vous marchiez encore 1 ou 2 kilomètres, sur la grande route, mais vous êtes le bienvenu, si le peu qu'on a vous convient. » Je m'en vais traire tout de suite, faites comme chez vous. J'ai pour vous coucher des plumes ou des balles d'avoine, choisissez donc, fit-elle avec bonne grâce. C'est moi la fermière et la cultivatrice ici, et l'herbe, près du marais en contrebas, ne semble pas déplaire à nos oies. Voyons Sylvie, va donc chercher une assiette pour le monsieur. Et Sylvia s'exécuta promptement. Elle n'était pas mécontente d'avoir quelque chose à faire, et elle aussi avait grand faim. Quelle surprise de trouver, au milieu de ces solitudes sauvages de Nouvelle-Angleterre, un intérieur si propre et confortable. Le jeune homme avait connu les horreurs d'une domesticité primitive et la misère noire qui fait qu'à ce degré de société, les humains ne répugnent même pas à vivre avec les poules. Ici, la bonne vieille ferme était exemplaire de la frugalité bien comprise d'antan, bien que tout y fût à si petite échelle qu'on se serait cru dans un ermitage. Il écouta avec ferveur le parler désuet de la vieille femme, et son enthousiasme grandit à la vue du visage hâve et des yeux gris étincelants de la petite Sylvia. C'était là le meilleur souper qu'il avait fait depuis 1 mois, insista-t-il. Et sur ce, les nouveaux amis, assis dans l'embrasure de la porte, restèrent un moment à regarder poindre la lune. Ce serait bientôt la saison des baies, et il n'y en avait pas 2 comme Sylvia pour aider à la cueillette. La vache, une fameuse laitière, quoiqu'elle fût, le diable a déniché le soir venu. L'hôtesse bavardait avec franchise. Elle avait enterré 4 enfants. Par suite, la mère de Sylvia et un fils en Californie, mort peut-être à cette heure, étaient les 2 seuls qui lui restaient. « Dan, mon garçon, était un chasseur, un vrai », soupira-t-elle. « Avec Dan à la maison, j'ai jamais manqué de perdrix ou d'écureuils gris, non, jamais. Mais il aime courir le monde, Dan. C'est ce que je me dis, et il n'est guère du genre à écrire des lettres. Non pas que je le blâme, j'aurais bien aimé voir le monde, moi aussi, si les choses avaient été autrement. » Il y eut un court silence. « Sylvie tient de lui, » reprit la grand-mère avec tendresse. « Elle connaît les moindres recoins du pays, et les créatures sauvages la prennent pour l'une des leurs. Si vous voyez comment elle apprivoise les écureuils, ils viennent lui manger dans la main, et c'est pareil pour toutes sortes d'oiseaux. L'hiver dernier, c'est les jets qu'elle a réussi à attirer ici, et si j'y avais pas veillé, je suis sûr qu'elle se serait privée de son manger pour avoir assez à leur distribuer. Je le lui dis, je veux bien aider à peu près tout ce qui bouge, sauf les corbeaux. Même si Dan, il en avait apprivoisé un, qu'on aurait dit qu'il avait la même intelligence que les hommes. Il est resté un bon moment dans les parages après que Dan soit parti. Dan et son père, c'était comme chien et chat. Mais mon pauvre vieux, il a plus jamais relevé la tête à dater du moment où son fils l'a nargué et a fiché le camp. » L'invité ne prêta pas attention au chagrin de famille qu'on lui faisait entrevoir. Quelque chose d'autre avait piqué son intérêt. « Donc vous dites que Sylvie connaît tous les oiseaux ?» fit-il soudain, tout en jetant un regard en coin à la petite fille, sagement assise sous un rayon de lune, mais de plus en plus somnolente. « Je suis collectionneur d'oiseaux, moi-même. Depuis que je suis petit, » Mrs. Tillet eut un sourire, « il y en a 2 ou 3 des espèces rares que je chasse depuis 5 ans maintenant. J'ai bien l'intention de les ramener chez moi, si je peux les trouver. »« Vous les mettez en cage ?» demanda Mrs. Tillet, d'un air soupçonneux, en réponse à l'enthousiasme de son affirmation. « Oh non, ils sont empaillés, je les préserve ainsi. J'en ai des dizaines et des dizaines, tout ce que j'ai abattu ou piégé moi-même. Samedi dernier, j'ai aperçu un héron blanc à quelques kilomètres d'ici, et je le suis depuis lors. On n'en a encore jamais vu dans ce district, c'est une aigrette neigeuse celui-ci. » Et il se tourna à nouveau vers Sylvia, dans l'espoir que l'oiseau rare fût l'une de ses connaissances. Mais Sylvia était occupée à observer un crapaud dans le sentier étroit. « Vous le reconnaîtriez tout de suite, mon héron, si vous le voyez, » continua l'inconnu, toujours aussi enthousiaste. « Un grand oiseau blanc, un peu bizarre, aux plumes douces et aux longues échasses. Il niche au sommet des grands arbres, et leur aire est faite de ramilles, un peu comme celle des faucons. » Le cœur de Sylvia lui battit plus fort, d'un battement farouche. Elle connaissait l'étrange oiseau blanc. Une fois, elle s'était approchée à petits pas de l'endroit où il s'était posé dans l'herbe verte et luisante des marais, de l'autre côté des bois. Il y avait là un découvert, où le soleil semblait toujours briller d'un éclat brûlant, jaune et étrange. Il y poussait de longs roseaux à tête tombante. Sa grand-mère l'en avait averti, on pouvait facilement s'enfoncer dans la boue noire et moelleuse, et là, personne n'entendrait plus parler d'elle. Un peu au-delà, c'était les marais salants, et au-delà encore, la mer. Cette mer dont Sylvia rêvait, et qui l'interrogeait. Mais elle ne l'avait jamais vue. Bien que sa grosse voix se fît souvent entendre par-dessus le bruit des bois, les nuits de tempête. Rien ne me ferait plus plaisir, quand j'y pense, que de trouver le nid de ce héron, disait cependant le bel inconnu. Je donnerais 10 $ à quiconque pourrait me le montrer, ajouta-t-il en désespoir de cause, et j'ai bien l'intention de passer tous mes congés à le chasser s'il le faut. Était-ce qu'il migrait quand je l'ai surpris? Ou avait-il été chassé du pays qu'il habite par quelque oiseau de proie? Tout cela captivait l'attention de Mrs. Tillet, mais Sylvia, elle, continuait à observer le crapaud sans deviner, comme elle l'eût fait dans des circonstances plus calmes, que le pauvre voulait juste rentrer dans son trou, sous le pas de la porte, et qu'il en était tout bonnement empêché par cet attroupement de spectateurs à une heure inaccoutumée du soir. On eut beau réfléchir, tant et tant cette nuit-là, rien ne permit de décider combien de trésors convoités ces 10 $ mentionnés par le beau chasseur comme, sans y penser, auraient pu acheter. Le lendemain, le jeune chasseur parcourut les bois et Sylvia lui tint compagnie. La première frayeur était passée et elle trouvait finalement le jeune homme aimable et fort sympathique. Il lui raconta plein de choses sur les oiseaux, ce qu'il savait, où il vivait et ce qu'il faisait pour s'occuper. Et il lui donna un couteau de poche, ce qui lui sembla un trésor immense, autant que si elle avait été échouée sur une île déserte. Jamais de toute la journée, elle ne se sentit mal à l'aise. Jamais elle n'eut peur, sauf lorsqu'il faisait descendre de sa branche quelque créature sans méfiance qui se trouvait là à chanter. Sylvia l'eût aimé combien davantage sans son fusil. Elle ne pouvait comprendre pourquoi il tuait les oiseaux même qu'il semblait tant aimer. N'importe. Alors que le jour baissait, l'admiration aimante que portait Sylvia à son compagnon restait la même. Elle n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi charmant, d'aussi délicieux. Le cœur de femme assoupi dans l'enfant était pris d'un vague frisson, un rêve d'amour. Comme une préscience de ce pouvoir immense excitait et exaltait ces deux jeunes forestiers qui traversaient les bois solennels dans un silence feutré et attentif. Ils s'arrêtèrent pour écouter le chant d'un oiseau, puis repartirent avec entrain, écartant les branches sur leur passage, échangeant de rares mots dans un murmure. Lui ouvrait le chemin. Sylvia marchait sur ses pas, fascinée, fébrile, les yeux non plus gris mais noirs d'excitation. Elle souffrait de ce que le héron blanc si convoité resta insaisissable, mais elle se contentait de suivre. Jamais elle n'aurait pris l'initiative de rompre le silence. Le son de sa propre voix l'eût terrifiée s'il se fût agi d'autre chose que de répondre. C'était déjà assez difficile de dire oui ou non quand il le fallait. Enfin, le soir tomba. Ils rentrèrent tous les deux, la vache, à l'étable, et Sylvia sourit de plaisir lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où elle avait entendu, la veille seulement, le sifflement qui lui avait fait peur. À moins d'un kilomètre de là, à l'extrême lisière des bois qui marquait aussi le point culminant du pays, se dressait un immense pin, le dernier de sa génération. Avait-il été laissé là pour servir de borne ou pour quelque autre raison ? Nul ne le savait. Voilà longtemps que les bûcherons qui avaient abattu ses camarades étaient morts et enterrés. Et depuis lors, toute une forêt d'arbres robustes, pins, chênes et érables avait repoussé. Pourtant, l'auguste tête de ce vieux pin les dépassait tous et servait de point de repère depuis le rivage ou la mer, et ce, à des kilomètres à la ronde. Sylvia le connaissait bien. Elle avait toujours cru que quiconque ayant grimpé à sa cime eût pu apercevoir l'océan. La petite fille avait souvent posé la main sur l'immense tronc rugueux et levé des yeux pleins de désir vers les sombres branchages toujours agités par la brise, quand bien même, sous leur couvert un peu plus bas, l'air fut immobile et brûlant. Désormais, Sylvia était emportée par une toute autre excitation quand elle venait à penser à l'arbre. Et si on l'escaladait au point du jour, ne pourrait-on pas voir le monde entier et découvrir sans peine d'où s'élançait le héron blanc ? Une fois l'endroit repéré, il serait alors facile de trouver le nid si bien caché. Quel esprit d'aventure, quelle folle ambition ! Elle imaginait le triomphe, le délice et la gloire, quand elle pourrait, un peu plus tard, ce matin même, faire connaître le secret. C'était presque trop réel, trop immense à porter pour un cœur d'enfant. Toute la nuit, la porte de la petite maison resta ouverte et les engoulevents vinrent chanter jusque sur le seuil. Le jeune chasseur et sa vieille hôtesse dormaient à poings fermés, mais Sylvia avait de grands desseins qui la maintenaient éveillée et sur ses gardes. Elle en oublia même de songer à dormir. La nuit d'été, si courte, lui sembla aussi longue que la noirceur de l'hiver, et quand enfin les engoulevents eurent cessé de chanter, elle prit peur que le matin ne vînt trop vite, et se glissa hors de la maison, suivit le sentier des pâturages à travers les bois, puis se hâta pour être au clair. Le babi assoupi d'un oiseau tout juste éveillé, et dont elle avait dérangé le perchoir en passant, la rassura et lui tint compagnie. Hélas, le flot immense de l'humaine sympathie qui inondait pour la première fois cette vie minuscule et terne avait-il emporté avec lui les satisfactions qu'offrait une existence cœur à cœur avec la nature et la vie muette de la forêt ? Il était là, l'arbre gigantesque, encore endormi dans le clair de lune qui pâlissait déjà. Voilà donc la petite Sylvia qui commence, pleine d'espoir et de bravoure, à grimper jusqu'au sommet. Le sang court à travers ses artères, ardent, bouillonnant. Elle escalade, pieds et mains nus, pareil à des cerfs qui s'agrippent à l'échelle monstrueuse, qui monte, monte, presque jusqu'au ciel. Il lui faut tout d'abord gravir le chêne blanc qui pousse juste à côté, et elle se perd un peu au milieu des branchages sombres et des feuilles vertes lourdes de rosée. Ici, un oiseau s'élance de son nid, là, un écureuil roux, voltigeant d'un côté, de l'autre, vient gronder l'innocente cambrioleuse. Sylvia n'a aucun mal à trouver son chemin. Elle a souvent grimpé aux arbres à cet endroit et sait pertinemment qu'un peu plus haut, une des branches supérieures du chêne effleure le tronc du pin juste là où ses branches basses poussent serrées. Une fois qu'elle aura franchi le passage dangereux d'un arbre à l'autre, la grande entreprise pourra vraiment commencer. Sylvia rampa le long de la branche chancelante et d'un saut intrépide s'élança du chêne jusque dans le vieux pin. Mais avancer fut plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Il fallait tendre très loin les bras et tenir bon. Les ramilles sèches et âpres l'étreignaient, la retenaient et la griffaient, telles des serres haineuses. La résine raidissait ses petits doigts maigres, devenus malhabiles, tandis qu'elle faisait le tour du tronc immense pour monter plus haut, toujours plus haut. Les moineaux et les rouges-gorges, dans les bois, au-dessous d'elle, commençaient seulement à s'éveiller et à gazouiller au soleil levant. Mais il faisait déjà beaucoup plus clair dans les hautes branches du pin, et l'enfant savait qu'elle devait se hâter si son projet devait servir à quelque chose. L'arbre semblait s'étirer en hauteur à mesure qu'elle avançait, il n'en finissait pas. Il ressemblait à un grand mât immense, fiché dans la terre voyageuse. Il dut être étonné ce matin-là, le colosse, quand il sentit cette étincelle d'esprit humain progresser hardiment de branche en branche jusqu'à sa cime. Qui sait combien les dernières ramilles s'affermirent pour faciliter le passage de cette frêle créature aux pieds légers. Le vieux pin devait avoir un faible pour cette nouvelle protégée. Il y avait, dans le cœur battant et courageux de l'enfant solitaire aux yeux gris, bien plus que chez tous les faucons, chauves-souris et autres phalènes, et même les grives aux doux chants. Et l'arbre restait immobile et maintenait les vents à distance ce matin de juin, tandis qu'une aube radieuse pointait à l'est. Quand Sylvia eut passé la dernière branche d'épine, elle resta là, tremblante, à la cime de l'arbre, fatiguée mais victorieuse. Son visage, si on l'avait entrevu d'en bas, eût ressemblé à une pâle étoile. Oui, c'était bien la mer sur laquelle poudroyait la lumière dorée du soleil levant. Vers l'est glorieux, deux faucons s'envolaient d'un lent mouvement d'ailes. Quand on les voyait depuis ces hauteurs, comme ils semblaient voler bas, eux que l'on était habitué à deviner depuis le sol, sombre silhouette sur le ciel bleu. Leurs plumes grises étaient veloutées comme une aile de phalène. Ils ne semblaient pas très loin maintenant, et Sylvia eut l'impression qu'elle pourrait s'envoler, elle aussi, dans les nuages. Vers l'ouest, fermes et terrains boisés s'étendaient sur des kilomètres avec, de ci, de là, un clocher, un village blanc. Oui, le monde était vaste, et formidable. Les oiseaux chantaient de plus en plus fort. Enfin, le soleil parut d'un éclat déroutant. Sylvia apercevait les voiles blanches éparses sur la mer, les nuages, pourpres d'abord, puis roses, puis jaunes, finirent par disparaître. Où donc était le nid du héron blanc dans cette mer de verdure ? Cette vision merveilleuse, ce spectacle du monde, devait-il être sa seule récompense pour avoir gravi jusqu'à ces vertigineuses hauteurs ? Non. Regarde à nouveau, Sylvia. Regarde un peu plus bas, là où le marais verdoyant se niche parmi la moire des bouleaux et les sombres épinettes. Regarde. Regarde bien. Une petite touche blanche s'élève de l'épinette morte, telle une plume solitaire. Elle s'élargit, elle monte encore. S'approche enfin et passe à côté du vieux pin qui sert de point de repère. Un cou tendu, une tête huppée, un vaste mouvement d'ailes. Mais attends, attends un peu, ne bouge pas d'un pouce, petite fille, que tes yeux impatients ne décochent pas trop vite un trait de lumière, de conscience. Car le héron s'est perché sur une branche de pin voisine de la tienne. Il appelle sa compagne restée au nid et se lisse les plumes en vue du jour qui vient. Une minute plus tard, une volée hurlante de moqueurs chats ayant envahi l'arbre, le héron solennel, contrarié par leur bruissant irrespect de la loi, s'envole et l'enfant pousse un long soupir. Sylvia connaît désormais son secret, le secret de l'oiseau sauvage, léger et frêle, qui flotte et ondule dans les airs et pique tel une flèche pour rejoindre le monde verdoyant qui est le sien. Satisfaite, Sylvia prend à ses risques le chemin du retour sans jamais plonger le regard par-delà la branche où elle se tient. Parfois, elle est sur le point de pleurer tant elle a les doigts qui lui brûlent et ses pieds meurtris risquent à tout moment de glisser. Qu'allait lui dire l'inconnu ? Elle repassait sans cesse la question dans son esprit. Comment réagirait-il quand elle lui dirait le chemin qui le mène tout droit au nid du héron ? Sylvie ! Sylvie ! La grand-mère, affairée, avait beau appeler, personne ne répondait. Et la petite paillasse de balles d'avoine était vide. Sylvia avait disparu. L'hôte s'éveilla d'un rêve et, se rappelant le plaisir qui l'attendait ce jour-là, se dépêcha de s'habiller pour hâter son commencement. Il était sûr, à la manière dont la timide petite fille avait réagi une ou deux fois la veille, qu'elle avait au moins vu le héron blanc. Il ne restait plus qu'à la persuader de parler. La voici qui arrive, plus pâle que jamais. Son vieux tablier, déjà bien usé, est déchiré, déchiqueté et tout taché de résine de pin. La grand-mère et le chasseur sont debout sur le pas de la porte. Ensemble, ils la questionnent. Et le moment, le grand moment, est venu de parler de l'épinette morte non loin du marécage. Mais Sylvia, après tout, et bien que la vieille grand-mère s'irrite et la gronde, et bien que les yeux affables, suppliants du jeune homme regardent droit dans les siens, ne parle pas. Il peut leur apporter la richesse, de l'argent. Il a promis de le faire. Et elles sont pauvres. Celui qui mérite tant qu'on le rende heureux attend le récit que la petite a sur les lèvres et peut maintenant raconter. Mais non, il faut qu'elle se taise. Qu'y a-t-il qui soudain lui interdit de parler, la prive de parole ? A-t-elle grandi pendant 9 ans pour que maintenant, au moment où, pour la première fois, le monde immense lui tend la main, elle doive décliner l'invitation ? Tout ça pour sauver un oiseau ? Le murmure des branches vertes du pin résonne à ses oreilles. Elle se rappelle comment le héron blanc est venu, d'un coup d'aile, traversant l'air doré, comment ils ont regardé la mer et le matin, ensemble. Non. Sylvia ne peut pas parler. Elle ne peut trahir le secret du héron et livrer sa vie. Chère loyauté, frappée d'une douleur poignante, quand l'hôte, déçu, s'en alla un peu plus tard. Elle aurait pu le servir et le suivre et l'aimer comme aiment les chiens. Pendant bien des nuits, Sylvia entendit l'écho de son sifflement hanter le sentier au pâturage lorsqu'elle rentrait avec sa compagne musarde. Elle en vint même à oublier le chagrin que lui avait causé chacun des coups de feu et sa peine à voir tomber en silence, triste vision, les grives et les hirondelles, leurs chants rendus soudain silencieux, leurs plumes toutes tachées de sang. Les oiseaux étaient-ils de meilleurs amis que jamais le chasseur eût surpassés ? Qui peut le dire ? Quels que fussent les trésors qu'elle avait à jamais perdus, bois, été, rappelez-vous. Que vos offrandes et vos remerciements aillent vers elle. Vos secrets, dites-les à l'enfant solitaire de ses campagnes.
Je connais les brumes claires, la neige rose des matins d'hiver. Je pourrais te retrouver, le lièvre blanc que l'on ne voit jamais. Mais l'oiseau s'est envolé, et moi jamais je ne le trouverai. Car j'ai vu l'oiseau voler, j'ai vu l'oiseau, je sais qu'il partait. Je l'ai entendu pleurer, le bel oiseau que le vent chassait. S'est envolé, s'il revient de son voyage, tout près de toi, le long du rivage. Moi, vois-tu, je lui raconterai combien pour toi, je sais qu'il a compté. C'est l'oiseau que tu aimais, l'oiseau jaloux, je l'ai deviné. Si jamais il revenait, je lui dirais que tu l'attends.